Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Est-ce que tout le monde a trouvé?
Oui.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bon message.
Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes à ce passage. Alors, est-ce que vous ressemblez à vos parents? Je pense que oui, il doit y avoir quand même une ressemblance. Alors, voici mon père. Alors, il y a beaucoup de gens qui, au moins dans ma famille, qui me disent que je ressemble à mon père. Surtout mes sœurs me disent que j'ai les mêmes manies que mon père, que je les agace de la même manière que mon père les agace. C'est sympa, hein? C'est ça, la famille, parfois. Alors, ce n'est pas du tout surprenant, parce que je partage une bonne partie de l'ADN de mon père. Donc, sans le vouloir, je deviens de plus en plus comme lui. C'est quasiment inévitable. Alors, l'apôtre Jean, ce matin, il est venu parler de la famille de Dieu. Il est venu parler des rencontres familiales. Il est venu parler aussi des ressemblances familiales. Et il veut surtout nous parler de nos vies, notre manière de vivre. Alors, l'apôtre Jean, il a une manière un peu circulaire de parler. Donc, il aborde un thème, et ensuite, il y revient, il ajoute quelque chose. Donc, on a déjà vu, en fait, cette question de comment marcher avec le Seigneur. C'est un thème qu'on a vu il y a quelques semaines, et on le retrouve dans ce passage. Et à la fin de ce passage, on voit qu'il commence à parler de l'amour fraternel. Et donc, il en a déjà parlé. Et ça va être le thème du prochain passage. Donc, c'est le style de Jean. Donc, c'est assez circulaire. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? Ce matin, il va nous parler de la famille de Dieu et à quoi elle ressemble. Et Jean veut nous aider à vivre autrement. Il veut nous donner des clés pour aller de l'avant dans la foi chrétienne. Donc, vivez comme un membre de la famille. Pourquoi nous pouvons vivre autrement? Et comment nous pouvons vivre autrement? Donc, commençons avec ce premier point. L'apôtre Jean s'intéresse à notre manière de vivre, notre style de vie. Si on jette un coup d'œil sur le verset 7, on voit comme avant donc, la présence de ces faux docteurs. Ces faux docteurs qui avaient tant traumatisé les lecteurs de 1 Jean. Et Jean dit à petits enfants que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Que personne ne vous séduise. Votre comportement n'est pas sans importance. C'est vrai que pour le chrétien aujourd'hui, il peut tenter de penser qu'il peut vivre n'importe comment. Il est sauvé par la grâce seule. Bon, ce qu'il fait dans la vie a donc peu d'importance. Mais non, Jean nous appelle à vivre de manière juste, à prôner la justice, à faire le bien. Alors c'est ce qu'on voit donc au verset 29 du chapitre 2, on l'a lu. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Et j'en termine ce passage en disant quelque chose qui nous choque un peu, je pense que c'est censé nous choquer. Verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et ni celui qui n'aime pas son frère. » Dieu le Père est juste, Jésus est juste, et nous devons être justes aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on voit que nous faisons partie de la famille. C'est cette justice qui nous donne un air de famille, qui montre le lien familial. Alors, un de mes films préférés, c'est Le Parrain. C'est un grand classique du cinéma américain qui retrace l'histoire d'une famille de la mafia italienne à New York sur plusieurs générations. Mais le récit se focalise en particulier sur la relation entre un père et un fils. Au début, le fils, il ne veut pas devenir un mafioso comme son père. Il veut vivre autrement. Il veut avoir un travail normal. Mais bon, il finit par entrer dans l'entreprise familiale, ce syndicat criminel, ce syndicat de l'injustice. Il est bien le fils de son père. Et de manière sinistre, il devient l'image de son père. Nous sommes appelés à devenir l'image de notre Père. Notre Père céleste, notre Père n'est pas un parrain sinistre, mais un Dieu de justice, d'équité, d'amour. Alors, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé à son image. Il a placé dans ce monde pour être son image, pour être en quelque sorte sa statue dans le monde, pour le représenter, pour représenter son règne dans le monde. Lorsque Dieu a donné sa loi au peuple juif, il les a défendus de faire une image de lui. Pourquoi ? Bah, entre autres, parce que l'image de Dieu est déjà dans le monde. C'est l'humanité. Et Dieu désire que nous pratiquions la justice, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, que nous aimions son image qui est dans le monde. L'apôtre Jacques dit quelque chose de semblable. Donc Jacques, chapitre 1, verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ça veut dire que la religion qui plaît à Dieu, elle est terre à terre, elle est pratique. Elle ne se cloître pas dans les grottes, elle ne s'isole pas, Dieu ne s'est pas isolé. Mais il a pris la forme d'un esclave, il est allé vers les démunis. Jésus avait compassion de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient loin de Dieu. Jésus aimait les enfants. Il aimait les gens qui étaient déconsidérés par les hommes. Alors le mercredi soir, nous étudions en ce moment le serment sur la montagne. Et dans les premières phrases de Jésus, de ce serment, Jésus décrit la personne à qui le royaume appartient. Cette personne a faim, elle a soif de la justice. Elle pleure quant à l'état de son propre péché, son propre cœur. Elle pleure quant à l'état du monde. Et cette personne a le cœur pur. Le chrétien désire vivre de manière pure. Donc il reflète le caractère de son Père. L'apôtre Jean le dit au verset 3. Donc on le voit au verset 3 du chapitre 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et l'apôtre Jacques, que je viens de citer, parlait de se préserver des souillures du monde. Alors la pureté, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais peut-être ce mot vous paraît un peu contraignant. Que la pureté, c'est comme quelque chose de contraignant. Elle peut être vécue comme une privation de liberté. Par exemple, je vais pas me donner au matérialisme. Je ne vais pas m'adonner à la thérapie de consommation aux 4 temps, à la défense. Je ne vais pas mentir sur mon CV pour avancer plus rapidement dans ma carrière. Je ne vais pas télécharger ce film pornographique. Je ne vais pas trouver mon réconfort dans ce que je mange. Je ne vais pas convoiter la maison ou la femme de mon prochain. Privation. Privation. Mais Dieu nous appelle à être pur comme lui est pur. D'être saint comme lui est saint. Et on sait que Dieu n'est pas un grand frustré, il n'est pas un mécontent, il n'est pas un râleur. Il veut que nous voyions la vie en plus grande. Il ne veut pas que nous nous limitions à ces choses creuses qui ne font que remplacer les choses qui sont vraiment bien. Le Seigneur nous appelle à une vie authentique, la vie qui lui plaît, la vie de l'homme sage, de l'homme bon. Il veut que nous connaissions la joie des amitiés authentiques, le contentement en lui, en ce que Dieu nous donne matériellement aussi, la fidélité dans nos relations, la confiance qui découle de l'honnêteté. Ce n'est pas la privation, c'est la vie en plus grande. En grand, plus grand, c'est ça. Oui, merci. Les propos de Jean, c'est vrai, ils sont très forts. Si vous êtes comme moi, je pense que ces propos vous paraissent peut-être vous font un peu peur. Ils sont très catégoriques. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et pourtant, nous savons pécheurs. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui l'a dit lui-même, donc quelques versets plus tôt, donc on l'a vu il y a quelques semaines, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Et peut-être aussi, au fur et à mesure que nous progressions dans la vie chrétienne, nous nous rendons compte de l'étendue du péché en nous. Le péché est souvent bien plus ancré qu'on ne le pensait. Il est bien plus perfide, plus persistant qu'on ne le pensait au début. Donc qu'est-ce que Jean veut dire? Est-ce qu'il se contredit dans l'espace de quelques versets? Je pense qu'il semble parler d'une attitude persistante. Il parle au temps présent, comme s'il parle vraiment de quelque chose qui continue, donc une direction établie. Le chrétien a changé de direction, il ne se livre plus de manière persistante au péché. Certes, il connaît des luttes, il connaît des moments de faiblesse. Jean l'a dit au chapitre 1, il ne faut pas le nier. Mais il lutte parce que fondamentalement, il va dans une autre direction. Il fait cap pour une autre destination. Et à présent, il a faim, il a soif de la justice. Et donc, il se purifie. Donc on sait, à force d'étudier ce livre depuis quelques semaines, que le but de Jean, c'est de rassurer ses lecteurs. Il veut les encourager à poursuivre un christianisme authentique, à ne pas suivre ces faux docteurs qui se disaient épanouis ou avec une connaissance sublime, mais qui vivaient n'importe comment. Jean veut nous encourager à vivre autrement. Mais Jean veut nous donner aussi, veut nous dire comment et pourquoi. Il veut nous donner des clés pour vraiment changer. Donc nous sommes à notre deuxième partie, notre deuxième section. Pourquoi nous pouvons vivre autrement? C'est vrai que lorsqu'on pense à nos vies, on peut être découragé. Hein. Il y a des choses qui... nous avons beaucoup de progrès à faire. Et ça peut miner notre confiance. Je pense que personne ne peut prétendre y être parvenu. Je ne sais pas ce que vous faites le 1er janvier, mais il y a beaucoup de gens qui font une liste de bonnes résolutions. Ils veulent changer leur vie. Bon, ça dépend de la volonté de chacun, donc il y en a qui arrivent, qui vont loin. Mais beaucoup de bon nombre de personnes n'arrivent pas à garder ces résolutions en plus d'un mois. La présence de règles, de lois, de réglementations strictes, en fait, ce n'est pas ça ce qui nous change. Lorsqu'on essaie de pratiquer la justice, se garder pur, en comptant sur nous-mêmes, ben on se rend compte assez rapidement qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas nous changer. Nous en sommes incapables. Mais Dieu peut le faire et Dieu veut le faire. Verset 1. Qu'est-ce que j'en ai dit ? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu a donné une nouvelle identité aux chrétiens. Un chrétien, c'est un enfant adoptif, adopté du Père céleste. Jean insiste là-dessus. Il est vraiment. Le Père nous a témoigné un grand amour, son grand amour. Nous étions loin de lui, nous étions rebelles à son égard, franchement peu soucieux de lui plaire. Et c'est lui qui est venu nous chercher. Alors imaginez le cas d'un enfant, qui grandit dans une famille qui est peut-être un peu négligée, abusée, maltraitée. Les services sociaux décident de le placer dans une autre famille. Et donc il y accueillit par cette nouvelle famille, avec des parents qui l'ont adopté. Alors, au début, l'enfant ne sait pas à quoi s'attendre. Jusque-là, il n'a connu qu'une famille. Je pense que l'enfant va se montrer un peu méfiant, un peu craintif, un peu réticent à parler, à s'ouvrir. Mais petit à petit, cet enfant va se rendre compte qu'il a changé de famille, que sa nouvelle famille l'accepte, que ses nouveaux parents l'aiment. Et petit à petit, il va s'ouvrir, il va parler, il va aimer aussi à son tour ses parents, il va changer. Alors, il aurait pu changer dès le début, hein, donc l'aimait en fait dès le début. Mais ça a pris du temps pour qu'il réalise qu'il avait changé de famille, qu'il avait une nouvelle identité, qu'il était devenu le fils adoptif de cette nouvelle famille. Il va de même pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc c'est l'amour de Dieu qui fonde notre identité. Nous n'avons pas besoin de nous prouver. Nous n'avons pas besoin de gagner l'approbation de notre Père. Nous n'avons pas besoin de gagner l'approbation d'autrui, même de nos familles, de nos collègues, des gens à l'église. Nous avons un Père au ciel qui nous aime. Et nous ne pouvons pas gagner son amour. Nous l'avons déjà. Et c'est en saisissant cette réalité que nous pouvons changer, que nous pouvons manifester cette ère de famille, la justice, la pureté. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous le sommes vraiment. Rendez-vous compte ? Nous le sommes vraiment. Il y a plus que cela. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est vrai que c'est un verset assez redoutable. Mais alors, je veux attirer votre attention sur les deux raisons que Jean nous donne. Premièrement, parce que la semence de Dieu demeure en vous. Et deuxièmement, parce que vous êtes né de Dieu. Alors, Jean, là, quand il parle de semence, il parle de la nouvelle naissance. Il parle du Saint-Esprit. Dieu a promis de faire sa demeure en celui qui place, qui met sa confiance en Jésus-Christ. Voici un texte de l'Ancien Testament qui explique pourquoi Dieu a dû faire ça. Donc Ézéchiel, chapitre 36. Donc Dieu dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu nous a promis un nouveau cœur. C'est comme si Dieu nous donne un nouvel ADN. Oui, il nous a adoptés, donc il nous a montré son amour. Mais en plus, il veut nous changer intérieurement. Il veut nous donner un nouvel ADN. Il veut nous donner son esprit. Et c'est cet esprit en nous qui nous donne l'envie, le désir de changer, de vivre pour Dieu. C'est lui qui nous change de l'intérieur. C'est lui qui nous donne une autre direction, un autre cap. C'est lui qui nous donne un dégoût pour le péché. Dieu veut que nous ayons un air de famille, que nous ressemblions à des membres de sa famille. De nous-mêmes, nous en sommes incapables. Mais le Père nous aime, le Père qui nous aime, veut que nous changions. Et avec lui, nous pouvons changer. C'est l'Esprit qui le fait. Comment ? On peut se poser la question. Par l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous sommes à notre troisième section. Comment est-ce que nous pouvons changer ? La réponse est Jésus, Jésus et encore Jésus. Ça c'est ce que Jean a dit dès le début en fait, de ce passage, verset 28. Demeurez en lui, demeurez en Jésus. C'est ça la clé. Ce n'est pas la religiosité. Ce n'est pas une liste de règles plus strictes, mais c'est la personne du Fils de Dieu, c'est Jésus qui peut nous changer. Comment ça? Alors dans ce passage, on voit que nous vivons entre deux manifestations de Jésus. Donc au verset 28, nous voyons que Jésus va revenir, il va paraître. Et au verset 5, nous voyons que Jésus a déjà paru. Donc il y a l'avenir, ce qui va se passer à l'avenir, et il y a le passé. Et les deux sont liés. Alors, est-ce possible dans la vie de regarder à la fois en avant et en arrière? Ce n'est pas facile, hein? Donc, je pense qu'il y a peut-être certains oiseaux qui arrivent à faire ça, mais l'homme a du mal à faire ça. Il a besoin d'un miroir, il peut le faire avec un miroir. Mais le chrétien doit le faire de manière spirituelle et il peut le faire en regardant, en fixant son regard sur Jésus-Christ, celui qui est déjà venu et celui qui va revenir. Jetez un coup d'œil sur le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ça, c'est l'avenir. En ce jour-là, et seulement en ce jour-là, c'est à ce moment-là que nous allons ressembler parfaitement à Jésus. En ce jour-là, nous serons rendus conformes à son image, à l'image de celui qui reflète pleinement l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu va refaire son image en nous. Nous serons des hommes, des femmes qui vont lui plaire à tous égards, qui vont faire sa volonté, qui vont être obéissants, qui vont aimer parfaitement le prochain. En ce jour-là, nos luttes cesseront, nos chutes disparaîtront. Ça, c'est notre espérance. Et celui qui a cette espérance, verset 3, se purifie. C'est cette espérance qui découle de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et c'est ça, c'est cette espérance qui nous donne l'envie, le vouloir et le faire de vivre autrement. Et c'est la croix elle-même qui nous donne cette espérance. C'est à la croix que nous voyons toute la gravité, toute la noisseur du péché. Et on voit donc verset 4 que le péché est fondamentalement une violation de la loi. Mais c'est une violation personnelle. Hein. C'est sa loi, c'est la loi de Dieu. Et le péché nous conduit à mettre à mort notre Dieu. On le voit à la croix. Et au verset 8, nous voyons que c'est le diable qui pèche dès le début. C'est lui le père du péché. C'est lui qui est à l'origine du péché. Je pense que nous oublions trop souvent la nature. Qu'est-ce que c'est exactement le péché ? Et l'origine du péché. Il s'oppose au règne de Dieu. Il veut tuer Dieu. Et son origine, c'est le père du péché, le diable. Donc nos péchés ne sont pas des péchés mignons. Lors de la première venue de Jésus, donc verset 5, Jésus est venu pour ôter les péchés. Et verset 8, pour détruire les œuvres du diable, pour les défaire. C'est Jésus qui est notre seul sauveur. Nous n'aurions jamais pu faire ce qu'il a fait. Donc c'est inutile d'essayer maintenant de le faire à sa place. C'est Jésus qui nous change du début à la fin. C'est grâce à lui que nous sommes pardonnés. C'est grâce à lui que nous sommes libérés de l'esclavage du péché. C'est grâce à lui que nous serons un jour rendus semblables à lui, que l'image de Dieu sera restaurée en nous. Et grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons du chemin à faire. Nous sommes en lutte. Mais Jésus a déjà ôté nos péchés. Nous sommes déjà pardonnés. Nous sommes déjà justifiés, acquittés. Nous sommes déjà les enfants aimés du Père. Et c'est l'assurance de ce pardon paternel. C'est l'assurance, ce pardon, qui nous donne le courage, qui nous donne la confiance de nous tourner vers Dieu, de le prier, de lui présenter les choses qui ne vont pas dans notre vie. C'est l'assurance de ce pardon paternel qui nous donne le courage, la confiance de nous repentir. Sans la grâce, il n'y a que la crainte. Mais avec la grâce, avec la connaissance de notre appartenance à Dieu, ben nous avons la confiance de lui dire pardon, de lui demander de nous laver, de lui demander de nous changer. Lorsque nous nous avons pardonné en vertu de la mort de Jésus, ben nous puisons en lui notre force, nous puisons en lui le courage et l'envie de changer. Et c'est aussi en regardant vers l'avenir, en regardant au fait que Jésus va revenir, qui nous donne envie de lui ressembler, de devenir ce que nous allons devenir. Le chrétien commence sa vie de chrétien en se détournant de ce qui déplaît à Dieu, en se tournant vers Dieu dans le pardon, pour demander pardon. Il place son espérance en Dieu, en Jésus. Et il continue de la même manière. La vie de chrétien ne change pas en cours de route. Il a commencé en demandant pardon, en plaçant sa confiance en Jésus. Et fondamentalement, il continue de la même manière. Jésus doit rester au centre. La repentance vis-à-vis de Jésus, la foi en Jésus continue de la même manière qu'au début. Jésus est notre espérance. Jésus est notre pardon. Et grâce à lui, nous faisons partie de la famille. C'est lui qui nous donne la force de changer. Chacun qui a cette espérance se purifie. Prions. Je vais prier. Notre bon Père Céleste, nous te louons ce matin pour ton grand amour à notre égard, cet amour si immérité. Te louons d'avoir fait de nous des membres de ta famille, de nous avoir fait tes enfants adoptifs, des frères de Jésus. Nous te louons également, notre Dieu, parce que tu nous as donné ton esprit, ta semence, que tu nous changes de l'intérieur, tu nous as donné un cœur nouveau, un cœur qui désire vivre pour toi. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos chutes, nos manquements. Et Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin avec la confiance que tu nous pardonnes, tu nous as déjà pardonné. Et donne-nous la force qui vient de la grâce pour changer, pour vivre autrement, pour vivre d'une manière qui te rend gloire. Te demandons, Seigneur, de nous donner encore un désir encore plus aigu pour la sainteté, pour la justice. Change-nous de l'intérieur et fais de nous des enfants qui ressemblent davantage à ton Fils. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous aider cette semaine à garder nos yeux fixés sur ton Fils, celui qui va revenir, qui va nous rendre conformes à lui-même et qui a déjà ôté nos péchés. Aide-nous cette semaine, Seigneur, à vraiment garder nos yeux rivés sur lui. Au nom de Jésus. Amen.